On va commencer inchallah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shafa' en islam, toutes les louanges reviennent Allah azza wa jalla qui nous réunit ce soir pour un but noble. Nous allons essayer, Inch'Allah, durant 40 minutes, top chrono, Inch'Allah, de consacrer une partie de notre soirée à préparer un événement majeur qui s'approche. C'est la première décade de Dhul-Hijjah. Nous n'avons pas trouvé la lune ce soir, ce qui veut dire que ce sera demain soir, Inch'Allah, la première nuit de cette décade de Dhul-Hijjah. Décade extrêmement importante qu'Allah Rabbul Izzah a cité dans le Coran à travers la Sourate Al-Fajri, et selon l'avis de la majorité des savants, ce verset, ces premiers versets de la sourate Al-Fajr font allusion à cette décade de Dhul-Hijjah. Mes chers frères en islam, les 10 jours de Dhul-Hijjah sont sans le moindre doute les meilleurs jours de l'année islamique. Le meilleur mois de l'année reste bien sûr le mois de Ramadan. Et les meilleures nuits de l'année restent les nuits de la dernière décade du mois de Ramadan, parce que, bien sûr, la dernière décade du mois béni contient la fameuse Laylatul Qadr, la fameuse nuit du destin. Mais là, nous parlons de Khayru Ayyam et Dunya, les meilleurs jours de ce Dunya, les meilleurs jours de toute l'année, les meilleurs jours du calendrier islamique, on va dire même les meilleurs jours de notre vie. Car notre vie, mes chers frères, est un cumul d'années. Notre vie est un cumul de mois, de semaines et de semaines qui passent très vite, et nous le constatons, et jusqu'à ce qu'il reste quelques jours, et lorsqu'il reste quelques jours, et enfin le dernier jour, Allah Rabbul Izzah envoie l'ange de la mort récupérer notre âme, et Malik al-Mawt vient reprendre notre âme en même temps que des milliers, des dizaines de milliers de personnes dans différents endroits de le monde. Et qu'est-ce qui se passe? L'ange de la mort reprend notre âme, nous quittons ce dunya comme Allah l'a prédestiné, et nous emportons avec nous les actions que nous avons cumulées dans ce dunya. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le VEM, par exemple, vient et récupère notre corps. Et notre corps est amené à la masjid, le bain mortuaire, le corps est restitué à la famille, on va prier, on va faire du'a, la salade de le bain mortuaire, la salade de janaza, et puis c'est l'enterrement, et puis c'est le retour vers Allah Azza wa Jal. C'est dit de façon assez brute, mais ça va se passer de façon très rapide. Il n'y aura pas de préavis. Il n'y aura pas forcément de signes. Ce ne sont pas ceux qui ont la barbe qui blanchissent ou ceux qui sont dans les hôpitaux qui vont forcément mourir. Nous avons des frères et des sœurs qui étaient en réanimation par rapport au Covid-19 et qui, alhamdoulilah, s'en sont remis, alhamdoulilah. Les bonnes nouvelles, ils sont sortis de la réanimation, ils vont beaucoup mieux. Ça veut dire que la mort, ce n'est pas quelque chose qui est forcément précédé de signes. Parfois, il y a des signes, mais parfois, elle peut intervenir à n'importe quel moment. On comprend qu'en parlant de la dernière décade de Dhul-Hijjah, on ne va pas se contenter uniquement de parler des vertus de la dernière décade. Parce que si on fait le tour des textes, versets du Coran et hadith, concernant les versets, référence a été faite à cette dernière décade 3 fois dans le Coran. Et les hadiths, il y a un hadith de base, un hadith général, je pense que tout le monde le connaît, ça passe en boucle. Ceux qui sont un peu sur les réseaux sociaux, je pense qu'on a dû l'entendre et le lire au moins 50 fois. Le fameux hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam nous rappelle que ma min ayyamin ala amalu salihu fihinna habbu ila Allah min al ayyam al ashr, yani ashr Dhul-Hijjah. Hadith de Bukhari dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam rappelle qu'il n'y a pas de jour où les actions sont aussi aimées et appréciées par Allah que les actions qui sont accomplies durant la décade de Dhul-Hijjah. Hadith rapporté par Bukhari. Donc si on fait le tour des textes des hadiths, il y a réellement un hadith de base et qui se décline sous différentes formules, avec différentes chaînes de narration. Il y a certaines chaînes de narration qui sont moins authentiques. Quand on parle d'une nuit qui vaut comme la nuit du destin, ce sont des chaînes de narration qui sont un peu plus faibles. Mais le hadith de base reste le fait qu'Allah Rabbul Izzah aime cette période, cette décade, et aime les actions qui sont accomplies durant cette décade. Et donc, quand on parle de la première décade de Dhul-Hijjah, on aurait pu juste, comme je vous ai dit, citer ces hadiths, mais le but c'est de comprendre que le temps passe. La dernière décade de Dhul-Hijjah, la première décade, pardon, de Dhul-Hijjah, c'est également le dernier mois de l'année islamique. Et donc, quand on parle de cette décade, on parle également d'une année qui se termine, qui se complète. Et c'est peut-être le moment aussi de faire un bilan de cette année qui est passée. Et quand on parle d'une année qui passe, c'est une partie de notre vie qui s'est écoulée. Et donc, c'est peut-être le moment aussi de réfléchir sur notre vie, sur le temps qui passe, sur le cumul des jours. Nous constatons tous que les jours passent, subhanallah, de plus en plus vite. Vous imaginez, quand le Covid avait commencé, c'était au mois 2, au mois de janvier, il me semble, hein, quand ça a commencé vraiment, on entendait parler. Il y a le confinement qui a duré, il me semble, à peu près 2 mois et demi. Hein, 3 mois, combien de Jum'a on a raté, combien de Salah on a raté, et maintenant on est là, alhamdoulillah. Mais si on regarde depuis qu'on a entendu parler du mot Covid-19 jusqu'à maintenant, là on est en juillet, ça fait 7 mois déjà, subhanallah. Ça fait déjà 7 mois. C'est comme si que ça avait commencé il y a une semaine. Ikhwan fillah, les jours de ce dunya, ils s'enchaînent et ils vont passer très vite, et plus on s'approche de la fin des temps, c'est un des petits signes de Qiyama, le fait que le temps passe de plus en plus vite. Alors ce que je vous propose, c'est bien sûr parler de la décade, c'est le but de notre réunion, de notre ijtima', mais faire un parallèle avec la sourate Wal Asri, innal insana lafi khusr, parce que dans la sourate Wal Asri, Allah Rabbul Izzah jure par le temps, et notre Seigneur nous révèle que par le temps, l'homme est certes en perdition. Allama Sa'di, rahimahullah, dans son tafsir, il donne une phrase qui est juste magnifique. Il dit « Aqsam Allahu Azza wa Jalla bil Asri alladhi huwa al-layl wal-nahar mahallu af'ali al-ibad wa a'malihim » Allah Rabbul Izzah fait le qasam par le temps. Et qu'est-ce que le temps? Le temps, ce n'est qu'une succession de jours et de nuits. Lundi, mardi, mercredi, mashallah, le matin, le soir qui s'enchaînent. On démarre une semaine, on en complète une autre, le week-end arrive, on reprend le lundi et ça va très vite. Et ce qui est intéressant dans le tafsir de Sa'di, dit que ces jours-là, c'est « mahallu af'al al-ibad ». C'est le moment, c'est l'endroit, c'est le temps où va s'installer, va s'incruster les actions du serviteur, du mu'min. Mes chers frères, le temps, comme on a dit, les jours et les nuits, permettent à l'homme de se rapprocher d'Allah. Et dans nos conversations, on va dire un peu mondaines, quand nous parlons du temps qui passe trop vite, et dans nos conversations, quand on regrette justement que oui, le temps il passe vite, n'a pas que le temps fait telle chose, c'est que justement on avait des objectifs à atteindre. Mais rarement dans nos conversations, on parle d'un temps qui passe et on se souvient que c'est un jour qui nous rapproche d'Allah ou que c'est un jour de moins dans notre rizq, dans l'espérance de vie qu'Allah nous a accordé. Et quand Allah Azza wa Jal parle de Wal Asri, le temps c'est pour que l'homme prenne conscience que le temps passe très vite. Et que le temps, soit il se retourne contre nous, et c'est le cas de la majorité des êtres humains, car Al-Insan, c'est d'une façon générale qui est dans la perdition, et Allah Azza wa Jal ensuite rappelle « Illa » à l'exception d'eux, et cette deuxième partie de la sourate, nous verrons. Les savants, les ulama, rahimahumullah, disent que par rapport à « Wal Asri inna al-insan ala fi khusr » nous constatons, nous réalisons que nous avons un réel problème avec le temps et pour plusieurs raisons. Premièrement, les jours de ce dunya passent très vite, comme on a dit, et nous ne les voyons pas passer. Et des jours qui passent, ça veut dire que le moment de mourir est de plus en plus proche. C'est-à-dire l'heure où l'ange de la mort doit venir reprendre notre âme, ce mawa'id, ce rendez-vous, il se rapproche de 24 heures, de 48 heures, d'une semaine et ainsi de suite. Il arrive des alik. Deuxième raison pour laquelle nous avons un réel problème avec le temps, c'est que notre insouciance, la rafla, comme on en dit, la rafla, elle est réelle, elle est malheureusement en nous. Et cela est propre au commun des mortels, à l'être humain. Nous nous laissons souvent entraîner par les nécessités de la vie, le travail. Il est normal de consacrer du temps dans son travail, mais parfois également par ces fameux aspirateurs de temps que sont les loisirs. Et ainsi, on le répète, les jours passent parce que nous sommes pris par le rythme du travail. Et quand le travail est terminé, ce sont nos loisirs parce qu'on estime qu'on a le droit de se détendre, d'avoir quelque chose qui nous apporte un peu de bonheur. Et ainsi, nous laissons les jours et les semaines passer. Troisième raison pour laquelle le temps se retourne très souvent contre nous, c'est que très souvent, dans une semaine, dans un mois, si on devait faire un bilan, on se rend compte que très souvent, nous succombons aux tentations et au pied de Shaytan. Et très souvent, nous commettons des péchés. Nous franchissons la limite qu'Allah Azza wa Jal a fixée. Et ça, c'est propre à l'être humain. C'est propre à l'être humain que des fois de se tromper, de désobéir à Allah Azza wa Jal. Et le problème, c'est que l'homme qui désobéit à son Seigneur, mais qui oublie que le temps passe et que le rendez-vous est proche, cette personne ne réalise pas qu'il est en train de remplir son livret de mauvaises actions et qu'il y a un risque que l'ange de la mort vienne et reprenne son âme et donc qu'il soit enterré avec ses péchés. Et si on est enterré avec nos péchés, ça veut dire qu'on est ressuscité avec nos péchés. Ça veut dire qu'on est présent, on se présente devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal avec nos péchés. Et ça, c'est la pire des choses. Que celui qui voit un atome ou un iota de péché dans ce livret de compte, ben, ce sera quelque chose de réel. Ainsi, à travers le tafsir de Wal Asr, nous comprenons que ce temps, si on ne le maîtrise pas, si on ne l'utilise pas dans la recherche de l'agrément d'Allah, ben, c'est quelque chose qui se retourne contre nous. Et chaque jour qui passe est un jour qui risque de nous condamner. Et il y a la délivrance. Quand Allah Azza wa Jal révèle « Illa alladhina amanu wa amilu salihat, tawassaw bil haqq, tawassaw bil sabr » Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'en joignent mutuellement la vérité et s'en joignent mutuellement l'endurance. Le but n'est pas de faire le tafsir du verset en entier, ça risque d'être long, mais qu'on réalise que l'exception, c'est celui qui se raccroche à sa foi, qui accomplit de bonnes actions. Ceux qui s'entraident mutuellement dans les bonnes œuvres, qui font la da'wah, et ceux qui s'entraident mutuellement et qui s'encouragent à rester patients face aux difficultés, face aux épreuves. Ainsi, mes chers frères, nous comprenons, et sœurs qui nous écoutent par le biais de la radio de la masjid, le temps c'est un amana, un dépôt. Mais le temps est également un ni'ma. Chaque seconde est une opportunité. Et dans sa clémence, Allah Rabbul Izza nous a favorisé dans notre rapport avec le temps en nous accordant des périodes de l'année où le bénéfice du temps se multiplie et parfois presque à l'infini. Des fois, Allah Rabbul Izzah nous donne des périodes de l'année où le bénéfice du temps que nous pourrons tirer en passant une nuit, une journée ou un mois en ibada nous apporte énormément. Et l'exemple le plus marquant, c'est la nuit du destin où une nuit passée en adoration vaut plus que khayrun min alf shahr, vaut plus que 1000 mois, c'est-à-dire une nuit que le mu'min va passer en adoration, Allah Rabbul Izzah lui rétribue plus de 1000 mois d'adoration. Et 1000 mois, ça fait à peu près 83 années, c'est une vie, c'est presque une vie. Dans sa clémence, Allah Azza wa Jal nous a accordé également les bénéfices du jeûne des 6 Shawwal. Et celui qui jeûne les 6 Shawwal, Allah lui accorde les récompenses de toute l'année passée en état de jeûne. Dans sa clémence, Allah Azza wa Jal nous a également accordé le jeûne de Ashura, le jeûne d'Arafat. On va y venir dans un instant. Le jeûne de Ashura, sachant que, ça se rapproche, c'est dans le mois de Muharram, celui qui jeûne le jour de Ashura, il va avoir une année de ses péchés effacés. Ainsi, les savants disent que ces faveurs divines redéfinissent le temps. Ces faveurs divines redéfinissent le temps parce qu'en finalité, c'est Allah qui crée le temps, c'est Allah qui organise le temps. Et Allah fait du temps soit une source de récompense, soit une source de destruction. Source de récompense, ce sera pour qui ? Illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bil sabr. Et le temps, source de destruction, c'est justement inna al-insana lafi khusr. Est-ce que le chemin est clair ? Par rapport au tafsir de Wal Asri, la compréhension du temps, de ce ni'ma, de ce dépôt, et qu'il y a 2 catégories de gens, la majorité des personnes pour qui inna al-insana lafi quoi ? Lafi khusr. Et l'exception, ce sont ceux qui vont se raccrocher à leur foi, accomplir des bonnes actions, ce sont eux qui sont dans la catégorie de illa alladhina amanu wa amilu salihat. Nous en venons à notre décat de Dhul-Hijjah. Dans sa clémence, Allah Rabbul Izzah nous a révélé par l'intermédiaire de son prophète alayhi salat wa salam que les meilleurs jours de l'année, ce sont les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Et comme on a dit en introduction, la mention de cette décade revient beaucoup moins souvent dans le Coran et les hadiths que la mention, par exemple, du mois de Ramadan. Mais cependant, dans l'unique hadith de base qui est cité concernant cette décade de Dhul-Hijjah, il y a une spécificité, il y a quelque chose qui attire notre attention et qui doit justement nous motiver. C'est lorsque le prophète alayhi salat wa salam annonce que les actions accomplies durant cette décade sont les plus aimées par Allah. Et c'est le mot clé, les plus aimées par Allah. Et lorsque le croyant entend et prend conscience que durant cette décade-là, qui va commencer demain soir, mes a'mal, mes actions, seront les plus aimées par Allah, quelle est la réaction de foi du croyant? C'est que je dois me dépasser dans l'accomplissement des bonnes actions afin qu'Allah soit encore plus satisfait de moi. C'est ce qu'on appelle « talabu ridallah », la recherche de l'agrément divin. Les savants disent que rechercher l'agrément divin, c'est une qualité intérieure et c'est une preuve de l'intelligence de l'être humain. Quand on parle de « ulul albab », quand on parle de « qawmu ya'qilun », quand on parle de « al-kayyisu », al-kayyis, pas comme en allemand le « kayyisu », non, rien à voir, « al-kayyisu », man dana nafsahu wa amila lima barakallahu fik lima ba'd al-maut. Tous ces textes qui parlent de l'homme intelligent, du croyant éclairé, d'accord, ulul absar, et autant de subhanallah de mentions magnifiques de le Coran, ce sont des qualités intérieures qui reflètent l'intelligence spirituelle de l'homme et la différence qu'il y a entre un croyant qui accomplit ses prières parce que c'est un rituel, parce qu'il l'a appris, ce qui est une bonne chose, c'est une pratique qu'il a, mais il est incapable de nous expliquer ou de se persuader et de comprendre, de crypter cette action, pourquoi il le fait, qu'est-ce que ça l'apporte, et de ce croyant qui réalise que le sujoud, c'est le front posé sur le sol qui me permet d'être le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Et dans cette situation de proximité, je dis Subhan Rabbi al-A'la. La génuflexion, c'est la position la plus complexe, la plus difficile à tenir pour l'homme. Et là, je fais les louanges d'Allah qui est al-Azim. Et ainsi de suite. Ce croyant éclairé, c'est celui qui comprend sa relation avec son Seigneur. C'est celui qui a réalisé, qui a intégré le sens profond de « Ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun » et qui a compris que « al-ibada liya'budun al-ibada huwa at-tadhallul wal khudu' lillah » c'est la soumission totale du croyant envers son Seigneur. Et celui qui soumet son cœur, qui soumet ses actions, qui soumet donc sa vie, c'est un croyant qui recherche en permanence le contentement et l'agrément divin. Et ce croyant, si on suit cette logique et cette réflexion, celui qui recherche en permanence l'agrément divin, pensez-vous une seconde qu'il se risquerait à se mettre volontairement dans une situation de désobéissance envers son Seigneur? Où Allah serait mécontent de lui? Abadan wallah, jamais de la vie. C'est ce qu'on appelle là la taqwa. C'est de mettre une séparation entre toi et la colère de ton Seigneur. C'est-à-dire, tu ne te mets jamais dans une situation où Allah serait mécontent de toi. Bien malheureux ce croyant qui se couche le soir alors qu'il a des péchés cumulés de cette journée. Péchés pour lesquels il n'a pas pu demander pardon à Allah Azza wa Jal. Parce que c'est une journée qui l'a rapproché, qu'Allah nous protège de l'enfer. C'est une journée où il s'est éloigné de la satisfaction d'Allah. Pour revenir à notre texte, le mot-clé qui doit éveiller notre attention et qui doit faire naître en nous une réelle motivation, un engagement. On parle d'engagement spirituel. On veut couper le lien avec le simple rituel. Parce que très souvent, nous vivons nous enchaînons les périodes comme un rituel. Vous voyez comment on était déstabilisé durant le mois de Ramadan, pas de mosquée. C'était compliqué. C'est difficile, spirituellement c'est difficile. Mais est-ce que pour autant, le mu'min s'est éloigné d'Allah alors que les maisons d'Allah étaient fermées? Est-ce que pour autant, on s'est éloigné d'Allah parce qu'il n'y avait plus personne qui faisait le tawaf? Là, wallah, la relation du mu'min, du croyant avec son Seigneur, c'est une relation qui trouve sa place dans son cœur. Et qu'on se prosterne dans une mosquée ou chez soi, quel que soit l'endroit où on accomplit des bonnes œuvres, c'est une relation qui reste puissante. On doit faire attention à l'enchaînement des rituels. Le ramadan est un rituel, le qurbani, le udhiya est un rituel, mais dépasser la forme, ce qu'on appelle le zahir, la forme des bonnes œuvres, et rechercher le batin, ce qui est propre, ce qui fait l'âme et l'essence de ces bonnes actions, c'est la recherche de l'agrément divin, c'est la crainte de décevoir notre Seigneur, c'est la honte de désobéir à Allah Azza wa Jal. Ce sont les qualités que nous devons essayer de faire naître en nous. Et la décade de Dhul-Hijja doit être justement animée par cette recherche de l'agrément divin, sachant qu'Allah Rabbul Izzah nous a annoncé, comme on a lu le matin, le texte tout à l'heure, que les actions les plus aimées par Allah sont celles accomplies durant cette décade. Et savants disent donc, ô musulmans, quand tu as pris conscience que la période de l'année où tes bonnes œuvres seront les plus aimées par Allah, ben fais-le. Fais le maximum d'efforts. Multiplie tes prières. Multiplie tes lectures de Coran. Multiplie tes dhikrullah. Fais le niya, l'intention ferme dès maintenant que Ya Rab, cette décade qui commencera dans certains pays ce soir en métropole et à Makkah, Madina bien sûr, ou demain soir chez nous par rapport à la vision de la lune, je fais le niya, istirdad, une préparation spirituelle et je me prépare, donc je me fais presque, on va dire, un planning spirituel pour donner le meilleur de moi-même dans les bonnes œuvres. Exactement comme on le fait avant le mois de Ramadan. Il y a un savant, un contemporain qui écrit une parole, un savant, je vais peut-être le lire en arabe, il dit « Wa'ajibun an najida fi anfusina an-nashata wal-jidda wal-ijtihad ». Il est, on va dire en français, il est étonnant que nous retrouvons au plus profond de notre cœur cette envie de se dépasser dans les bonnes œuvres la veille du mois béni de Ramadan. Mais lorsqu'il s'agit de la veille de la première décade de Dhul-Hijjah, nos cœurs restent insensibles à l'annonce prophétique qui mentionne que les bonnes œuvres du croyant sont les plus aimées par Allah. Où est donc notre relation profonde avec notre Seigneur? S'agit-il d'un rituel que nous aimons répéter d'année en année, où nous avons réalisé que nous devons être en permanence à la recherche du contentement d'Allah et de l'agrément divin? Et cette décade de Dhul-Hijjah, qu'est-ce qui fait cette valeur? Allah seul sait pourquoi c'est une décade qui est exceptionnelle, mais parmi les pistes que nous pouvons donc déduire à partir des textes, c'est que dans cette décade, il y a trois actions d'une très grande importance. Dites-le, c'est quoi ces actions? Premièrement, Dhul-Hijjah est synonyme de Hajj. Même si cette année, les circonstances sont très compliquées, mais il y aura quand même 10 000 personnes qui vont accomplir le Hajj. Donc, Dhul-Hijjah a cette importance parce qu'elle renferme un pilier, qui est le Hajj. Quelle est la deuxième action qui est spécifique à ce mois? Tonton Massoum. Kurbani, qu'on dit comment en arabe? Le Udhiya. On peut quand même avoir les bons mots. Le Udhiya, le sacrifice, ce qui est spécifique au mois de Dhul-Hijjah, ce qui fait que ce mois a de la valeur. Et troisièmement, ce que certains savants disent, mais ça découle un peu du Udhiya, c'est l'aumône, la sadaqa, qu'on va donner en quantité par rapport au Udhiya, la distribution de la viande après le sacrifice, après le fameux Qurbani. Donc il y a trois actions qu'on retrouve dans ce mois béni. Et il y a deux jours particuliers dans cette décade de Dhul-Hijjah, c'est le jour de Arafat, le 9e Dhul-Hijjah, qui est par définition le jour de la miséricorde et du pardon divin. Et deuxièmement, il y a, qu'est-ce qu'il y a comme jour spécifique? Yom al-Nahr, le jour de Eid al-Adha, qu'on appelle Bakrit. D'accord? Ce jour fait partie des jours les plus importants de l'année. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam rappelle « Inna a'azam al-ayyam indallahi yom al-Nahr thumma yom al-Qarr » Les jours les plus importants de l'année sont le jour du Yom al-Nahr, c'est-à-dire le 10e, le jour du Eid al-Adha, et un autre jour qu'on appelle Yom al-Qarr, c'est le lendemain du 10e, c'est-à-dire le 11e Dhul-Hijjah, qu'on n'a pas cité tout à l'heure parce qu'on ne l'inclut pas dans la première décade, mais c'est un des jours les plus importants, c'est le lendemain du Eid al-Adha. Et dans ces actions qu'on a citées, le Hajj et le sacrifice et le fait de donner en aumône de la viande et de partager aux personnes qui sont dans la nécessité, mais également à nos proches, aux membres de la famille, il y a des qualités qu'on appelle des qualités « a'malul quloub ». Il y a des qualités intérieures qui constituent la base de toutes les bonnes actions et de l'intégrité de nos « a'mal saliha ». C'est la base de notre relation avec Allah Rabbul Izza. On va le dire rapidement, il y a la sincérité. Quelle est la base du qurbani? C'est la sincérité. Quand on sacrifie un animal, on le fait pour Allah et uniquement pour lui. D'où le verset. Hein, quel verset? Mad dalil. Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. C'est le verset par excellence qui prouve que le sacrifice, ça symbolise notre sincérité envers Allah Azza wa Jal. Il y a le sacrifice, le don de soi, et le sacrifice de ses biens pour Allah Azza wa Jal, qu'on retrouve dans le pèlerinage, qui est une action qui est qui nécessite, on va dire, les moyens financiers, mais qui nécessite également un effort physique. Et de le qurbani, on parle également de sacrifice financier. Il y a l'amour d'Allah, c'est ce que nous recherchons. Et quel est la, qui est ce prophète qui, à travers son sacrifice, nous a réellement montré l'amour d'Allah? C'est Ibrahim alayhi salam. Et le qurbani, le udhiya, c'est justement faire passer l'amour divin avant ce qui nous est cher. Quand Ibrahim alayhi salam reçoit l'ordre de sacrifier son fils, d'immoler son fils, il fait passer l'ordre d'Allah avant cet enfant qu'il aime le plus au monde parce qu'il a eu un âge très, très avancé. Et donc, on le retrouve, cet amour, dans le udhiya de le qurbani. Il y a les efforts physiques et la patience face aux difficultés pour Allah. Et c'est une qualité que nous retrouvons dans le hajj principalement. Il y a la confiance en Allah concernant le rizq. Quand on va au hajj, et Allah seul sait comment ça coûte cher de nos jours, entre 6000 et 7000, on le fait, on accomplit notre pilier, mais on a cette conviction que Allah nous accordera la baraka de nos biens. Quand on achète un animal, il ne faut pas prendre la calculatrice et se dire que ça va coûter tant, je dois payer tant et tout et tout. Fais-le pour Allah, avec la conviction qu'Allah t'accordera, incha'Allah, la baraka, parce que cet argent-là, tu es en train de donner pour la recherche de l'agrément de ton Seigneur. Ça, c'est une base de la relation du mu'min avec son Seigneur, la confiance en Allah. Et on terminera avec l'espoir de rétribution, qu'on appelle en arabe « ihtisabul ajl ». Et on doit le retrouver dans toutes les bonnes actions. Ce qui va donner l'éclat aux bonnes œuvres. Que quand tu as compris la prière, tu sais, « ilmul yaqin », que cette prière-là, tu la retrouveras le jour de Qiyama dans ton livret de bonnes actions. Donc, tu vas la faire avec dévotion, avec sincérité. Tu vas la parfaire. Tu vas faire en sorte que cette prière, c'est la plus belle de toute ta vie jusqu'à maintenant. Et la suivante sera encore plus belle parce que je sais que je la retrouve dans mon mizan hasanat, dans mon livret d'actions, et elle me sera, cette prière, et d'autres bonnes actions me seront présentées auprès d'Allah. C'est l'espoir de rétribution. Et cela, on le retrouve dans le qurbani, dans le udhiya, quand le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que l'animal qu'on sacrifie, la ta'ati yawm al-qiyamati bi adlafiha wa quruniha wa sha'ariha. Que l'animal qu'on a sacrifié, on le retrouvera le jour de qiyama, et il pèsera de la balance ses cornes, ses poils. Chaque membre de son corps pèsera dans la balance. Ainsi, les blancs, je ne sais pas, blancs ou blonds d'Aquitaine, je ne sais pas comment on dit, qui pèsent très lourd, si on le fait avec ikhlas, sincérité pour Allah Azza wa Jal, l'animal qu'on a acheté à un prix assez élevé, on l'a fait pour Allah, condition d'être sincère, ben, j'ai cette yaqin, cette conviction que cela se retrouvera dans mon mizan, dans ma balance, le jour de Qiyam. Ce sont là les bases de la relation intérieure avec Allah, je le répète, sincérité, sacrifice, don de soi pour Allah, sacrifice de ses biens pour Allah, amour d'Allah, la patience face aux difficultés, la confiance en Allah et l'espoir de rétribution. Ce sont ces valeurs que nous devons cultiver avec ces actions de ce mois, de cette décade bénie, et faire en sorte de retrouver ces qualités intérieures dans toutes les actions de notre vie. Chers frères, on va compléter avec deux points. Premièrement, une prise de conscience que on a vu que les actions sont les plus aimées par Allah. Ça, c'était la première vertu. Deuxième vertu qu'on doit retenir, c'est que chaque bonne action accomplie durant cette décade de Dhul-Hijjah a plus de valeur que la même action qui a été accomplie durant n'importe quelle autre période de l'année. Et la rétribution, le thawab est supérieur. Quand le prophète alayhi salat wa salam nous rappelle « Ma min amalin azka indallahi wa la a'zamu ajra » Il n'y a pas une action qui a plus de valeur et qui ramène plus de ajr. Et le ajr, c'est les rétributions. Que min khayrin ya'maluhu fi ashril qu'une bonne œuvre que le mu'min va accomplir durant cette décade. Donc la deuxième information, c'est que les actions auront plus de valeur. C'est une source de motivation pour faire encore plus de bonnes actions, sachant que celui qui rétribue, c'est Allah, et Allah qui est Al-Latif, le bienveillant, Allah qui est Al-Malik, qui est le maître, qui est Al-Ghani, celui qui est riche, qui est Al-Karim, celui qui est généreux. Et sa générosité, c'est justement de nous donner une quantité de récompense qui n'est pas définie. Ce n'est pas défini. Et quand ce n'est pas défini, c'est là qu'on sait que c'est Allah qui rétribue et qu'Allah y rétribue, subhanallah. C'est une générosité qui ne peut pas se quantifier ni être calculé. Tout ça, ça doit être des sources de motivation. Maintenant, pour clôturer, quelles sont les actions que nous devons planifier durant cette décade? Alors, il n'y a pas à se dire qu'il y a telle action, qu'il faut faire telle action, c'est sunnat, non. Le prophète, alayhi salatu wasallam, nous parle de multiplication des récompenses pour toutes les actions de façon générale, sans spécifier une action qu'on doit faire en abondance, à l'exception du takbir, et on va en parler. Premièrement, si on veut commencer dans l'ordre et avoir une cohérence dans nos bonnes œuvres, ce sont les 5 salats qu'on accomplit à la masjid idéalement, pour les messieurs. Et si on a la possibilité de les accomplir au premier rang, avec le takbir oula, durant cette décade, khair wa ni'ma. Autant des fois, autant on donne de l'importance aux prières en jamaat durant le mois de Ramadan, mashallah, les masajids sont remplis parce que tout le monde vient. On quitte le travail, on vient parce que Ramzan, il faut faire namaz, masjid. Ben, on doit donner encore plus d'importance à cette première décade. Et les masajids, théoriquement, doivent être remplis comme durant le mois béni. Mais qu'est-ce qui fait que il n'y a que très peu d'intérêt à cette décade? C'est un manque de connaissances. Et c'est pour ça qu'on fait ce programme, bi'idhnillah, pour nous rappeler que c'est une sunna, c'est un enseignement de le prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a une promesse divine et il y a la possibilité d'obtenir le contentement d'Allah si on accomplit les bonnes œuvres de façon très sérieuse durant cette première décade. Autant nous étions privés de la masjid durant le mois béni et nos cœurs ont saigné de ne pas être dans la masjid pour aucune prière durant le mois de Ramadan. On a, mashallah, 10 jours qui ont plus de valeur que n'importe quelle journée du mois béni. Essayons, faisons le maximum d'efforts pour être présents aux 5 salats au premier rang avec Takbir Oula. Deuxièmement, passer une partie de la nuit en adoration, le tahajjud, le qiyamul layl. Il est rapporté de Saïd ibn Jubair que lorsqu'il commençait la décade du mois de Dhul-Hijja, il faisait une quantité d'efforts qui était à la limite du possible. C'est-à-dire, il faisait tout ce qu'il pouvait pour passer ses nuits en adoration. Et il y a une citation célèbre, ce n'est pas un hadith, c'est une citation d'un pieux prédécesseur. Il disait, « La tutufi'u, n'éteignez pas vos lampes durant les nuits de la décade de Dhul-Hijja. » C'est-à-dire, passer ses nuits en adoration. On essaie de passer un maximum de temps. Autant on se réveillait pour le tahajjud durant le mois de Ramadan, même si on était en confinement, mais on le faisait. Le tahajjud chez nous, on doit le faire durant cette décade parce que, c'est la meilleure décade de toute l'année. Troisièmement, jeûner si possible, les 9 jours du Dhul-Hijja. Du premier Dhul-Hijja au 9. Le 10, bien sûr, c'est le jour du Eid al-Adha. C'est le hadith de Hafsa radiallahu anha qui rappelle que le prophète alayhi salatu wassalam, parmi les actions que jamais il ne délaissait concernant le jeûne, il y a le jeûne de Ashura et il y a cette décade de Dhul-Hijja et 3 jours de chaque mois. Donc ça c'est la version de Hafsa radiallahu anha. Après si on creuse, on a d'autres versions, il y a divergence sur cette règle, mais la version de Hafsa, selon les muhaddithin, elle a plus de valeur, parce qu'après il y a une règle, al-ithbat muqaddam ala nafi, qu'on a un hadith qui dit que le prophète n'a pas jeûné, et un hadith qui dit qu'il a jeûné, on tient compte de ce que le prophète a fait. Donc le hadith de Hafsa est prioritaire, et donc jeûner les 9 premiers jours successifs, tous les jours, de la première décade de Dhul-Hijja, c'est une sunnah. C'était une habitude du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous savons qu'en état de jeûne, chaque instant, c'est un instant d'ibada, oui ou non? À chaque instant du jeûne, qu'on est en état de somme, qu'on accomplisse une bonne action ou non, on est en ibada parce qu'on on s'est engagé avec Allah en disant Allahumma inni asum wa ghadan lak. On s'est engagé de rester en état de jeûne pour Allah jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est un engagement, on est de l'ibada à chaque seconde. Il n'y a rien de mieux pour vraiment montrer notre sincérité et pour profiter de cette décade que de jeûner durant les 9 premiers jours du Dhul-Hijja, qu'Allah nous donne tawfiq de le faire. Ce n'est peut-être pas évident. On avait peut-être prévu d'autres choses. On avait peut-être prévu des repas en famille, des sorties, des pique-niques avant un éventuel reconfinement. Tout le monde a peut-être cette crainte, mais on essaie de décaler tout ça. Allah seul sait si ce n'est pas la dernière décade du Dhul-Hijja de notre vie. Allah seul le sait. Si on aura encore l'occasion de vivre une décade de Dhul-Hijja, autant profiter au maximum. Et quand on parle de jeûne, il y a bien sûr le jeûne du jour d'Arafat. Ça, c'est, on va dire, le summum, c'est l'excellence durant cette décade. Et notre prophète, alayhi salatu wa sallam, dit que le jeûne de ce jour, j'ai espoir qu'Allah pardonne les péchés de l'année d'avant et les péchés de l'année qui vont venir. C'est-à-dire deux années de péchés qui sont pardonnés par Allah. Là, on a encore un exemple de la clémence divine dans notre rapport avec le temps. C'est comme si Allah, Rabbul Izzah, arrête le temps et nous permet d'avoir des choses que le temps même ne nous permet pas d'obtenir. Parce que c'est Allah qui est le maître du temps et qui est le maître de toutes choses. Donc le jeûne du jour d'Arafat, on essaie de le faire. Ça, c'est franchement, ça c'est mashallah. C'est en termes d'apport et de pardon des péchés, c'est vraiment une action qui nous sera profitable et visible le jour de Qiyama lorsque nous verrons des années de péchés pardonnés régulièrement et encourager nos enfants également. Ils sont en vacances, leur donner cette bonne habitude, qu'ils aient un repère temporel, un repère spirituel, que ça c'est une période qui est extrêmement importante, autant qu'ils ont compris l'importance du mois de Ramadan. Ça fait 4. Cinquième action, il reste 4 minutes, on est dans le bon timing, fais le maximum de dhikr. Et ça c'est, on va dire, spécifique depuis le premier Dhul Hijja. C'est le fameux takbir tashhir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Le prophète sallam dit ma min ayyamin, il y a pas une journée, il y a pas des jours où les actions sont si importantes auprès d'Allah que les actions durant ces jours. Et le prophète dit fa akthiru, c'est le troisième hadith qui reprend ces termes. Fa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Donc faites énormément de tahlil. Tahlil, c'est dire la ilaha illallah. Takbir, c'est Allahu Akbar. Et tahmid, c'est Alhamdulillah. Ce sont les adhkar qui constituent le fameux takbir tashriq, hadith rapporté par Muslim. Alors, il y a deux catégories de takbir. Le mutlaq et le muqayyad. Le mutlaq, qui veut dire général. Ça commence le premier de l'Hijjah jusqu'au dixième. Et on a tous entendu, c'est des textes, c'est des récits de Umar ibn Umar, d'Abu Huraira, radiallahu anhuma, radiallahu anhum, du coup, qui sortait dans les rues de Madina et qui lisait fort le takbir et les gens répétaient le takbir. Le but, c'est quoi? C'était de rappeler aux sahaba, de les sensibiliser sur l'importance de ces paroles pendant les 10 jours de l'Hijjah. Donc ça, c'est un takbir qui est personnel. On doit le lire autant que possible. Vous venez à la masjid, lisez le takbir. Vous êtes dans les embouteillages, lisez le takbir.